Nous avons évoqué à plusieurs reprises la grandeur de notre Dieu et aussi le fait qu'il s'occupe de chacune de nos situations et le fait que Jésus sur la terre a représenté ce qu'était Dieu. Et je vous propose de lire un texte dans l'Évangile selon Marc. Je vous propose de lire le récit de la Transfiguration, puis nous regarderons un petit peu ce qui est autour. Donc Marc, Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 2. Donc je vais lire d'abord ce récit de la Transfiguration, nous regarderons ce qui est un peu autour, puis nous reviendrons sur ce récit de la Transfiguration. Donc Marc 9, verset 2. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur comme de la neige, tel qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir. Et Élie leur apparut avec Moïse, et ils parlaient avec Jésus. Et Pierre répondant dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire ou ce qu'ils disaient, car ils étaient épouvantés. Et une nuée qui les couvrit, et il vint de la nuée une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et aussitôt, ayant regardé de tous côtés, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. L'évangile de selon Marc a comme particularité d'être un évangile qui nous présente les actions de Jésus et aussi ses paroles, mais de façon assez continue et je dirais assez fluide. On est là sur un récit qui avance, sans doute moins structuré que ne l'est par exemple l'évangile selon Matthieu, voire même l'évangile selon Luc et encore moins Jean. Et donc on a un accent qui est particulièrement mis sur les endroits où Jésus se trouve. Par exemple, si je prends le chapitre précédent, au chapitre 8, au verset 22, il va à Bethsaïda, et puis au verset 27, et Jésus s'en alla et ses disciples au village de Césarée de Philippe. Et jusqu'au chapitre 9, chapitre 8, verset 26, eh bien, on a une succession d'actes et d'enseignements de Jésus qui parcourt les chemins de la Galilée, puis va un petit peu plus loin, puis revient en Galilée, etc. Et à partir du chapitre 8, verset 27, on a un changement que nous trouvons dans les trois évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, qui est cette question que Jésus pose à ses disciples, et « Qui disent les hommes que je suis ?» Cette question qui est finalement la question fondamentale. Puisque Jésus avait montré des choses, Jésus avait dit des choses, et la question qui se pose, et qui se pose à tout homme, c'est « Alors, qu'est-ce qu'on va faire de celui qui a montré cela et qui a dit cela ?» Et alors, les réponses sont variées. Les disciples, chapitre 8, verset 28, répondirent Jean le baptiseur, d'autres Élie. Nous y reviendrons sur Élie. Et d'autres, l'un des prophètes. Et ça, c'est la réponse générale. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus ? Mais finalement, ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est celle que Jésus pose ensuite. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et nous avons la réponse de Pierre qui dit « Tu es le Christ ». L'évangile selon Marc est très raccourci. Nous savons que la réponse que Jésus donne en Matthieu est un peu plus élaborée. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais là, la réponse de Pierre, c'est « Tu es le Christ, celui qui était attendu, celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament et que finalement, Jésus est pleinement dans sa personne. » Et Pierre a discerné cela. Et alors, le verset 30 peut être un peu étonnant puisque finalement, ce qu'on attendait dans l'Israël ou du moins parmi les gens pieux d'Israël, c'était que le Messie arrive. Et là, on a quelqu'un qui reconnaît que Jésus est le Messie. Et Jésus leur défend expressément de dire cela à personne. Et il commença à les enseigner, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours. Pourquoi Jésus, alors que ça aurait été si naturel, demande à ses disciples de ne pas dire ce que eux ont discerné et qui était juste et qui était vrai? C'est parce que le Messie tel qu'il était attendu n'était pas le Messie tel que Dieu l'avait pensé. Il y avait ces deux figures de l'Ancien Testament, le serviteur souffrant, le serviteur glorieux, et ce serviteur à la fois très proche de ceux qui souffrent, ce serviteur au contraire exalté très haut. Et je dirais la théologie juive de l'époque n'avait pas réussi à mettre les deux ensemble. Et Jésus savait, comme il le dit d'ailleurs par exemple dans l'Évangile selon Jean, que finalement... si on disait qu'il était le Christ, les attentes de délivrance des Romains allaient l'emporter et de beaucoup sur une délivrance beaucoup plus fondamentale que Jésus allait accomplir à la croix, et qu'il commence à leur enseigner ici en disant « il faut que le Christ souffre beaucoup ». Oui, c'est vrai, il faut que le Christ souffre beaucoup. Luc 24, quand Jésus va s'adresser aux deux disciples en route vers Emmaüs, il va leur dire « ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses ». Donc il était bien question que ce Christ souffre. Mais là, il n'emploie pas ce terme de Christ. Non, non, il prend le terme de fils de l'homme, de celui qui s'est associé à notre humanité, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort, rejeté et mis à mort. Et donc, vous voyez combien cette grandeur de ce Messie qui était attendu s'allie avec l'humilité de celui qui se définit lui-même comme le fils de l'homme qui va souffrir. Celui qui est de la même pâte humaine que nous, si on peut dire, en prenant l'expression « fils de l'homme » sous cet angle-là. Et par contre, verset 32, il tenait ce discours ouvertement. Il tenait ce discours ouvertement. Donc Jésus ne cache pas le fait qu'il y a une attente qu'il faut changer dans l'esprit des disciples, qui est que celui qui est le Christ va être aussi celui qui va souffrir. Et celui qui va souffrir, tel qu'annoncé dans les prophètes, et en particulier dans le prophète Ésaïe, bien entendu. Et alors, on voit bien dans le verset qui suit, quand Pierre le reprend, eh bien que ça avait de la peine à percoler, cette idée, que c'était difficile à entendre pour eux. Alors, je ne vais pas développer ce point-là, mais juste pour indiquer qu'il y a cette grandeur que reconnaît Pierre, Pierre qui avait été tellement subjugué, par exemple, par la multiplication des poissons, la pêche miraculeuse. Et il y a aussi cette humilité de Jésus qui annonce qu'il va souffrir beaucoup. Et de la même manière, Jésus dit en quelque sorte que le chemin que lui va prendre, c'est aussi le chemin que ses disciples, à sa suite, doivent prendre. Et c'est pour cela que, dans les versets qui suivent, dans le verset 34, et suivant, eh bien, il fait ce contraste entre celui qui veut sauver sa vie et celui qui accepte de la perdre. Parce que le même chemin qui a été le chemin du maître sera aussi le chemin des disciples. Et voyez combien Jésus contraste encore une fois la grandeur que l'homme attend. Que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier? Bah oui, qui c'est le plus grand? Ce serait quelqu'un qui posséderait le monde entier, mais s'il fait la perte de son âme, eh bien, il est tout petit. Et par contre, celui qui est grand, c'est celui qui va après Jésus, se renonce à lui-même et prenne sa croix. Donc Jésus opère ici un renversement total, à la fois quant à sa personne, et aussi quant à ce qu'il attend de ceux qui le suivent, ses disciples. Ce renversement qui fait que finalement, celui qui est grand, c'est celui qui s'abaisse. Et celui qui veut avoir au contraire cette grandeur, eh bien finalement, celui-là sera abaissé. Et alors, il conclut au verset 1er du chapitre 9. En vérité, je vous dis que ceux qui sont présents, de ceux qui sont présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venu avec puissance. Parce que là, on pourrait dire, ben finalement, est-ce que cette attente messianique, du coup, c'était qu'une attente un petit peu médiocre, de finalement que l'aspect abaissement, que l'aspect de Jésus qui va s'abaisser, qui demande à ses disciples de se renoncer à eux-mêmes, et où en sont les promesses de gloire qui étaient faites dans l'Ancien Testament? Et ces promesses de gloire, est-ce qu'elles vont s'accomplir? Ou est-ce qu'au contraire, il faut se cantonner, se contenter de cet abaissement, etc. Mais non. Et Jésus, qui est à la fois celui qui se reconnaît comme le Fils de l'homme, qui va donner sa vie, eh bien, veut donner un aperçu, et en particulier à quelques disciples, et le Pierre du verset 32, c'est bien entendu le même que le Pierre du chapitre 9, verset 2, un aperçu extraordinaire du royaume de Dieu venu en puissance. Et alors, nous avons ce récit de la transfiguration, sur lequel je reviendrai tout à l'heure en disant quelques mots. Et sur cette montagne de la transfiguration, nous avons Jésus qui fut transfiguré. C'est comme pour dire que finalement, il y avait ce serviteur souffrant, ce Christ qui avait été, qui était le Fils de l'homme, mais il y avait aussi cet aspect-là qui serait celui de Jésus un jour, de ce roi venant avec puissance et qui serait finalement glorieux aux yeux de tous. Et vous voyez les expressions du verset 3, elles sont quand même assez incroyables. « Ses vêtements devinrent brillants d'une extrême blancheur comme de la neige, tel qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir. » C'est comme si l'évangéliste Marc, et on sait que Marc a reçu le témoignage de Pierre, accumulait les indices. Et alors, je reviendrai encore sur le récit de la Transfiguration, mais poursuivons après pour voir le contexte qui suit. Et comme il descendait de la montagne, alors on pense que Pierre, il aurait bien aimé finalement rester sur la montagne, parce que on était bien là, il est bon que nous soyons ici. Mais il faut redescendre de la montagne. Et cet aperçu que Pierre et les autres ont eu, eh bien, n'était pas pour le moment à établir de façon définitive. Et alors, quand il descend de la montagne, eh bien, de nouveau, qu'est-ce que Jésus fait à une question qui lui est posée, pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Eh bien, que répond Jésus? Chapitre 9, verset 12, il réitère la même chose. Comment il est écrit du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup, qu'il sera chargé de mépris? Élie est déjà venu, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. Ça fait allusion à Jean-Baptiste, qui était Élie qui annonçait la venue du Messie. Et puis, verset 14 et jusqu'au verset 29, nous avons un autre récit qui se passe aussi au moment où Jésus et les trois disciples retrouvent les autres, et puis une grande foule et des scribes, etc. Et nous avons ce récit d'un homme dont le fils a un esprit muet et qui est dans une situation très difficile. Et alors, ce qui est très touchant, je trouve, c'est la réponse que fait le Père au verset 22. « Mais si tu peux faire quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion. » Et Jésus lui dit « Si tu peux, c'est croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Et aussitôt le père de l'enfant, s'écriant, dit avec larmes, « Je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Et Jésus opère le miracle. Et là, vous voyez, on a la grandeur de Jésus au début de ce chapitre, dans les versets 2 à 8. Et on a aussi ici celui qui sait se pencher sur nos pas. Celui qui sait voir la misère de ce père avec cet enfant. C'est quand même très touchant de voir que l'appel que fait le père à Jésus, c'est « assiste-nous », donc lui et son fils, étant ému de compassion. C'était la bonne expression à utiliser, n'est-ce pas? Puisque qui c'est qui nous est dit plusieurs fois dans les évangiles « ému de compassion » C'est Jésus. Et Jésus, effectivement, a eu compassion de cet homme et de son fils. Esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de lui et n'y rentre plus. Voilà. Et Jésus, l'ayant pris par la main, le redressa et il le leva. On voit toute cette tendresse de Jésus qui sait se pencher sur ce que nous sommes. Et donc, vous voyez combien l'évangéliste, dans l'agencement de ce récit, sait mettre à la fois en évidence la grandeur extrême de Jésus-Christ, mais aussi le fait qu'il sait se pencher sur la misère et sur les tristesses de ceux qu'il est venu sauver et de ceux qu'il est venu visiter. Alors, par rapport à ce récit de la Transfiguration, si nous y revenons maintenant quelque peu, eh bien, j'aimerais faire quelques courtes remarques, parce que ce récit de la Transfiguration est quand même un récit un peu extraordinaire. Quand vous lisez les épîtres, en particulier les épîtres de Jean et les épîtres de Pierre, est-ce que vous n'êtes pas frappé du fait qu'ils rappellent peu des événements des évangiles ? Quand, je ne sais pas moi, si on avait passé 3 ans et demi avec Jésus, qu'on avait vu tous les miracles, qu'on avait entendu toutes les paraboles, qu'on avait vu tout ce qu'il faisait, etc., il me semble qu'on aurait saturé notre communication de dire « Ah ben attendez, moi j'étais là, hein, j'ai bien vu ceci, et puis attendez, Jésus a fait cela, etc. » Or, vous lisez un Pierre, deux Pierre, un Jean. Alors, bien sûr, il y a des allusions. Un Jean commence à ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc, on voit bien que Jean fait bien allusion, mais il ne donne pas beaucoup de détails. Vous savez quel est le seul récit des évangiles qui est repris par un des disciples qui ont écrit une lettre et qui était là, présent? Il n'y en a qu'un seul. C'est dans 2 Pierre 1, c'est ce récit de la Transfiguration. Et ça vaut peut-être la peine de lire quelques mots de 2 Pierre 1 pour voir comment Pierre, un vieil homme qui sait qu'il va bientôt mourir et qui a envie d'écrire une dernière lettre à ses frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? 2 Pierre 1, verset 15. « Mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi, en tout temps, vous rappeler de ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoin oculaire de sa majesté, car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et nous, nous avons entendu cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, etc. Pierre sait qu'il va mourir, il écrit une lettre, et dans cette lettre, il se dit « Mais il faut que j'assure ceux auxquels j'écris que ce que nous leur communiquons, cette foi chrétienne, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des mythes. Le christianisme n'est pas un mythe, au contraire, il se base sur des faits. Et alors, quel fait Pierre va-t-il retenir de la vie de Jésus ? Il va retenir ce qui s'est passé sur le mont de la Transfiguration. Parce que c'est cela qu'il veut retenir. Alors, on pourrait dire que c'est quand même un peu curieux, parce que s'il veut parler de fable, là, on a quand même un événement qui peut-être se rapprocherait le plus d'un mythe, quelque part, puisque Jésus monte, il est transfiguré, etc., d'une blancheur, etc. C'est peut-être pas le meilleur choix qu'il aurait pu faire. S'il voulait vraiment assurer ses destinataires que la foi qu'il leur avait transmise était une foi basée sur des faits. Mais justement, parce que il y a eu ce fait extraordinaire, et c'est pour cela que Pierre les ramène à cet élément de la Transfiguration. Et parce que cet élément de la Transfiguration, finalement, anticipe la venue du royaume de Dieu avec puissance. Chapitre 9, verset 1 de l'Évangile selon Marc, vers lequel nous revenons maintenant. « En vérité, je vous dis que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venu avec puissance. » Jacques est mort en 44, Pierre est mort en 64 ou 65, Jean est mort peut-être en 95. Le royaume de Dieu, depuis l'an 95, il n'est pas venu avec puissance. Donc, à quoi Jésus fait-il allusion ? Eh bien, il fait allusion à cet avant-goût que ses trois disciples ont eu de cette venue avec puissance. Et justement, qu'est-ce qu'on attend On attend que les choses changent sur cette pauvre terre, n'est-ce pas? On attend ce royaume de Dieu, et c'est pour cela que la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Nous attendons ce règne de Dieu, et c'est le soupir implicite ou explicite de tant d'humains sur cette terre, de tant de personnes qui souffrent, de tant d'opprimés, de tant de gens qui sont dans des situations difficiles. C'est que il y ait enfin une situation qui s'établisse, qui soit meilleure que l'état dans lequel nous sommes dans ce pauvre monde, un état insatisfaisant. Et finalement, ce que nous attendons implicitement en tant qu'humains, c'est ce règne de Dieu. Parce qu'on attendrait que les choses s'améliorent. On attend toujours que les choses s'améliorent, et puis elles ne s'améliorent pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est comme si Pierre voulait dire à ses destinataires, « Mais vous savez, mes amis, les choses sont difficiles. » Et dans son épître, la première, il parle de beaucoup de souffrances. Dans la seconde, il parle de mauvais docteurs, etc. Il y a des choses difficiles dans ce monde. Mais soyez assurés que ce n'est pas le mot final de Dieu. Le mot final de Dieu, c'est le règne en puissance. Le mot final de Dieu, c'est ce règne en puissance. Et pourquoi je suis sûr que c'est le mot final de Dieu? Et pourquoi je suis sûr que cela va arriver? Parce que moi, un jour, dit Pierre, sur la montagne, j'ai vu quelque chose et j'ai su que c'était le royaume de Dieu en puissance. Et Jésus m'a amené à un endroit où ça m'a donné cette assurance. Cette assurance que, effectivement, la lampe prophétique, eh bien, elle m'éclaire. Que cette l'étoile du matin, eh bien, un jour, elle va briller partout sur cette terre. Voyez pourquoi Pierre utilise ce récit-là. Alors bien sûr, Pierre était tout à fait conscient, peut-être pas au moment où il était sur la montagne, mais en tout cas quand il écrit sa seconde lettre, il était tout à fait conscient que cette instauration du règne de Dieu en puissance, du royaume de Dieu en puissance, nécessitait que le Fils de l'homme souffre, soit rejeté, meure et ressuscite. Mais vous voyez combien il projette ses lecteurs directement vers l'avant-goût qu'il avait eu du point final. Et vous savez que c'est beaucoup plus facile pour nous de nous diriger quand on sait quel est le point d'arrivée. Et c'est comme, Pierre disait à ses destinataires, « Regardez, moi, le point d'arrivée, j'ai eu un jour un privilège extraordinaire. Je l'ai vu. Je l'ai touché, ce point d'arrivée. Je l'ai touché. Je l'ai contemplé. Quand j'étais sur cette sainte montagne, et que j'ai entendu cette voix. » Alors, c'est pour cela que ce récit de la transfiguration, il est si important aussi pour nous aujourd'hui. Peut-être il est important dans nos moments de doute. Et si nous avons des moments de doute, eh bien nous pouvons relire 2 Pierre chapitre 1. Et Pierre qui dit, mais attendez, avant de partir, le temps de déposer ma tente est arrivé, je vais encore vous dire quelque chose, et ça vous savez, je l'ai vécu, je peux vous assurer que c'est vrai. Eh bien, c'est le récit de la transfiguration. Et c'est pour cela que ce récit de la transfiguration est important dans les moments de doute. Et ce récit de la transfiguration, il est important aussi pour nos moments aussi, parce que nous avons cette aspiration, nous l'avons exprimée dans une prière tout à l'heure, que finalement, nous ne sommes pas comme Dieu, mais que Dieu, maintenant, nous transforme à son image. Et vous savez, ce verbe « transfigurer » ou « métamorphoser », nous le trouvons 3 fois. Peut-être plus, mais en tout cas, je pense à trois occurrences. Nous le trouvons ici. Nous le trouvons aussi dans Romains au chapitre 12 et au verset 2. Romains 12, verset 2. Nous pouvons lire ce texte. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez métamorphosés ou transformés, exactement le même mot, par le renouvellement de votre intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Et donc, si Jésus a été transfiguré, métamorphosé, eh bien ce texte dit maintenant que nous pouvons nous laisser aussi transfigurer. Nous pouvons nous laisser transfigurer. Et le troisième texte, qui est assez proche, nous le trouvons dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 3, et au verset 18, 2 Corinthiens 3, 18, « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés ou métamorphosés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Que nous disent ces deux textes, Romains 12, verset 2, 2 Corinthiens 3, verset 18? Eh bien, ils nous disent que finalement, cette transformation que Jésus a connue ici, eh bien, qui lui fait passer d'un état, je dirais, d'être humain normal à le réceptacle de la gloire de Dieu, puisque toute cette lumière, cette brillance, tout cela, c'était pour montrer un petit peu cette gloire de Dieu, eh bien, quelque part, elle peut être aussi le petit processus dans lequel nous nous inscrivons. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un qui, aujourd'hui, devienne brillant comme cela. Dans un autre évangile, c'est peut-être dans l'évangile selon Luc, dans le récit parallèle, qu'il est dit que son visage, l'apparence de son visage devint tout autre. Et puis, dans l'évangile selon Matthieu, il est dit « son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière ». Donc il y a cette brillance-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un aujourd'hui dont le visage devenait brillant comme le soleil. Mais quelque part, cette transformation que Dieu veut opérer par son esprit pour que nous ressemblions toujours plus à Jésus, eh bien, elle peut s'opérer dans une petite mesure pour nous aussi. Et c'est pour cela qu'il y a cette expression, vous savez, « je vois le Christ en toi, dans ton visage ». Et quel est le moyen par lequel nous pouvons être transformés? Eh bien, c'est celui que nous avons déjà dans notre chapitre 9 de l'Évangile selon Marc, le verset 8. « Et aussitôt, ayant regardé de tous côtés, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. » Nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur. Comment ressembler davantage à Jésus? Comment être métamorphosé de plus en plus en Jésus? Eh bien, en regardant Jésus. En regardant Jésus, tel qu'il nous est présenté dans les évangiles, tel qu'il est anticipé dans l'Ancien Testament. Chercher Jésus dans la parole de Dieu. Le reconnaître aussi dans nos frères et sœurs, dans ceux qui manifestent un petit quelque chose de Jésus sur la terre. Et comme cela, nous serons progressivement transformés. Alors la métamorphose de Jésus sur le mont de la Transfiguration a été instantanée. La nôtre est progressive, très lente, imparfaite, et elle est beaucoup moins brillante au but. Mais néanmoins, nous nous inscrivons dans le même processus. Voyez combien je trouve que de rapprocher ces trois occurrences de ce verbe « transformer » est intéressant pour nous. Et ce processus, vous aurez remarqué, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il est présenté comme une conséquence naturelle. Nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, eh bien, alors dans ces cas-là, nous sommes nécessairement transformés à son image de gloire en gloire. Tandis que dans Romains 12, eh bien, ça nous est donné comme une exhortation. Puisque vous avez eu ce si beau salut dont il est question dans les chapitres 1 à 11 de l'Épître aux Romains, eh bien, dans ces cas-là, je vous exhorte, dit Paul, à mettre vos corps comme sacrifice et à être changés dans votre esprit et à ne pas vous conformer à la pensée de ce siècle, mais à être transformés, métamorphosés, pour qu'on comprenne ce que Dieu veut. Et ça nous amène vers le dernier point que je voulais mettre en exergue, qui est ce qui est venu de la nuée. Alors ce qui est très frappant dans ce récit, c'est cette nuée qui vient. La nuée, c'est la Shekinah de gloire dont il était question déjà dans l'Ancien Testament, cette nuée qui avait accompagné la pérégrination du peuple d'Israël, de l'Égypte jusqu'en Canaan. Cette nuée qui avait recouvert un jour le temple si luxueux que Salomon avait érigé à la gloire de l'Éternel, nuée qui était telle que finalement les sacrificateurs n'avaient même pas pu rentrer dans le temple pour commencer leur service. Et cette nuée, elle était venue, il y avait cette voix du ciel qui était venue sur Jésus remontant de l'eau après son baptême, et là nous la retrouvons, cette nuée, sur cette montagne de la Transfiguration, cette nuée qui les couvrit. Cette nuée qui est là et qui couvre, comme elle avait couvert le tabernacle en Exode 40, comme elle avait couvert le temple en 1 Roi chapitre 8, eh bien, elle vient et elle couvre celui qui est le Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et que dit le Père ? Écoutez-le, écoutez-le. Et donc, pour qu'il y ait cette métamorphose, pour que nous ressemblions un peu plus à Jésus, pour que nous nous inscrivions dans ce chemin dont il a parlé au verset 34 du chapitre 8, « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. » Eh bien, pour nous inscrire dans ce chemin, eh bien, il est important d'écouter Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, écouter Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut sans doute dire écouter ce qu'il nous a dit et ce qui nous est retracé dans les évangiles. Écoutez, qu'est-ce qu'il a donné comme enseignement Jésus ? Oh. En schématisant au maximum, on pourrait dire qu'il y a trois choses. Il y a les paroles de Jésus qu'il a prononcées quand il rencontrait des gens, etc. Les paroles éparses un petit peu. Et puis il y a les enseignements que Jésus a donnés en parabole. Quand Jésus s'exprimait pour un enseignement un peu spécial, c'était souvent en parabole, une trentaine de paraboles parsèment les évangiles. Et c'est par ces paraboles que Jésus nous fait percevoir un petit peu des choses que sinon nous aurions de la peine à comprendre. Les paraboles, c'est quoi ? C'est une parole qui est jetée de côté. Et donc Jésus prend une analogie, il va nous parler d'un champ, il va nous parler d'un berger, il va nous parler d'un père un peu surprenant, il va nous parler d'un bon samaritain, il va nous parler... voilà, quand Jésus nous parlait en parabole, eh bien finalement, Noël Colombier a écrit un chant magnifique là-dessus, quand tu parlais en parabole. Eh bien, ça nous permet de toucher un petit peu des choses que sinon nous ne comprendrions pas. Et puis Jésus nous a parlé aussi, écoutez-le, il y a une troisième catégorie de paroles que Jésus nous a dites, outre les paroles qu'il a dites en chemin à la foule ou à ses disciples, outre les paraboles qui sont un mode d'expression quand même tout à fait particulier à Jésus. Après, on ne voit pas tellement que Paul et les autres rédacteurs d'Épître aient beaucoup parlé en paraboles. C'est vraiment assez propre à Jésus dans l'ensemble de la révélation biblique que ce style. On en trouve un petit peu des paraboles, mais enfin pas beaucoup. C'est surtout Jésus qui a parlé en paraboles. Et puis, il y a un troisième champ de paroles de Jésus qui est aussi un peu spécial. C'est le grand discours, les grands discours que Jésus a fait avant d'aller à la croix et qu'il a fait à ses disciples. Alors, discours sur la fin des temps, Matthieu 24, 25, Luc chapitre 21, dans cet évangile selon Marc chapitre 13, mais surtout le long discours qu'il a fait dans l'évangile selon Jean. Et qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce discours ? Il nous a parlé de l'amour du Père et il nous a dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres ». Et donc finalement, dans ces paroles de Jésus, écoutez-le, si on prend stricto sensu les paroles que Jésus a dites et qui nous sont rapportées, eh bien il me semble qu'il y a ces paroles qui concernent la vie de tous les jours, je pense au serment sur la montagne, je pense à des paroles qu'il a dites aux disciples pour les envoyer, beaucoup d'instructions diverses. Il y a les paroles un peu de révélation en particulier par ces paraboles qui nous permettaient de comprendre un peu des choses que sinon nous aurions de la peine à comprendre. Et puis il y a ces dernières paroles que Jésus a données à ses disciples, et en particulier cette parole, que lui nous a aimés, et combien l'a-t-il montré ? Et alors nous aussi, nous devons nous aimer l'un l'autre. Et quand cette nuée, la voix du Père dans la nuée, retentit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », me semble que cet accent sur cette troisième catégorie y est, parce que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et comme nous l'avons dit ici il y a quelques semaines, eh bien, nous avons cette parole que comme le Père aime le Fils, nous aussi nous sommes aimés et nous aussi nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Donc ce « écoutez-le » est tellement important par rapport à ces paroles de Jésus. Mais ce serait dommage, me semble-t-il, de cantonner le « écoutez-le » aux seules paroles de Jésus. Alors, en France, en français, ce n'est pas la tradition. Mais il y a une tradition anglo-saxonne. Perhaps you can say a little bit about this, that the Bible in English often has red letters for Jesus' words. Donc les paroles de Jésus, souvent dans les Bibles anglo-saxonnes, sont imprimées en rouge. Donc effectivement, on peut... Tu en as une en français aussi avec ça? Bon, bah, tu vois, la Thompson peut-être. Avec, il y en a quelques-unes en français, mais ouais, c'est pas très fréquent. Et donc, effectivement, écoutez-le, ça peut être les paroles qui sont en rouge, mais ça peut être aussi l'ensemble de ce... Parce que finalement, l'ensemble de la Bible nous parle. C'est la parole de Jésus. Puisque tout tourne autour de lui. Il est cette parole qui était annoncée dans l'Ancien Testament et qui est révélée dans le Nouveau Testament. Et quand Paul écrit des instructions... En 1 Corinthiens, même des choses pas toujours très faciles à accepter. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Ben, reconnaissez que les paroles que je vous dis, bien, ce sont les commandements du Seigneur. On pourrait dire qu'il est gonflé, Paul, de dire ça. Que les paroles que moi je vous dis, ce sont les commandements du Seigneur. Ben oui, finalement, il n'y a pas de différence, qualitative à mettre. Alors c'est vrai que quand on a une parole que Jésus lui-même a dite, elle est précieuse à notre cœur. C'est pour cela qu'elle est écrite en rouge dans certaines Bibles. Mais de notre côté, on peut dire que finalement l'ensemble de la révélation qui nous est donnée, eh bien c'est la révélation de Jésus-Christ. La révélation donnée par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que si on prend le dernier chapitre de la Bible, en Apocalypse 22, on a cette équivalence entre ce que Jésus a dit et finalement l'ensemble de la révélation à laquelle il ne faut ni soustraire ni ajouter. Donc quand on a le Père qui dit à ses trois disciples, sur cette montagne, dans un événement unique, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », eh bien c'est pour nous un encouragement mais extraordinaire à écouter Dieu et à écouter Dieu en écoutant les paroles qu'il nous a dites. Et écoutez Dieu, écoutez les paroles de Jésus, et aussitôt, terme caractéristique de l'évangile selon Marc, on le retrouve une quarantaine de fois, significatif ici, et aussitôt ils regardaient de tous côtés et ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. C'est facile pour nous peut-être de regarder de tous côtés. Et de tous côtés, on va avoir beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de systèmes, beaucoup de réflexions, etc. Et on peut regarder de tous côtés, c'est ce qu'ils ont fait, mais finalement, on préfère regarder Jésus. Et ça aussi, c'est à la fois pour nous, je trouve, un encouragement et une exhortation, en tout cas moi je le prends comme ça pour moi, c'est de dire, on peut regarder de tous côtés, et de tous côtés il peut y avoir des choses bonnes, mais il faut les ramener et les regarder au prisme de ce que Jésus est. Et ils ne virent personne sinon Jésus seul avec eux. Et j'aime bien qu'ici l'évangéliste prenne le terme de Jésus. Il ne prend pas le terme de fils bien-aimé, il ne prend pas le terme de fils de l'homme, il ne prend pas le terme de Christ. Nous les avons trouvés ces trois termes dans le contexte immédiat. Il va prendre le terme de Jésus, cet homme qui est Dieu sauveur dans son humanité venue auprès de nous. Et donc quand nous avons à écouter Jésus, nous n'écoutons pas quelqu'un qui serait indépendant de notre condition humaine aujourd'hui, nous écoutons quelqu'un qui pleinement dans son humanité, de ce petit bébé à qui on a donné ce nom de Jésus, qui a grandi et qui ensuite a enseigné, celui qui est parfaitement apte à répondre aux besoins et à nous donner des pistes, à nous donner des lignes directrices, à nous donner des façons de voir le monde qui ne sont pas tout ce qu'on peut regarder de tous côtés, mais qui vont nous conduire dans le bon chemin. Ce chemin qui est ce chemin de métamorphose progressive que Jésus ici a connu instantanément, passant de son état d'humiliation à son état de glorification en un instant, et celui dans lequel maintenant il nous entraîne. Mais si on continue à regarder de tous côtés, sans regarder Jésus, sans le passer sinon au filtre de Jésus seul, eh bien, je pense que cette métamorphose, elle sera beaucoup plus difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce récit de la transfiguration, et je m'arrête là, me semble-t-il, est extrêmement important et utile pour nous. Il est utile parce qu'il nous montre, et en particulier par rapport au contexte, que nous avons à la fois cette grandeur de Dieu à travers la personne de son Fils, et aussi cette proximité touchante que Jésus montre, en particulier quand juste après, il va s'occuper d'un papa et dont le petit garçon va mal et qu'il est ému de compassion. Il est important ce récit de la Transfiguration parce qu'il nous projette aussi vers ce qui est l'aboutissement final et il nous en donne la certitude. C'est pour cela que Pierre le reprend. Et il est important ce récit de la Transfiguration parce qu'il nous encourage, nous qui avons à cœur, parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous avons envie de te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, chantons-nous quelquefois. C'est peut-être un peu présomptueux de le chanter comme ça, mais enfin, on le chante quand même. Eh bien, il nous encourage et il nous stimule, ce récit de la Transfiguration, à écouter les paroles de Jésus, à vivre en ayant comme cible, colonne vertébrale de notre vie, ce que Jésus nous a dit, ce que Jésus nous a laissé comme façon de voir le monde et ce que Jésus seul peut nous apporter et lui seul qui peut nous transformer à son image.